Voilà, nous allons aborder l'une des dernières parties de ce week-end, qui a été fort riche, il faut le dire. On continue, donc, nous on l'a appelé le moment du groupe vaudois, c'est-à-dire qu'avant Philippe et Hugues, donc, tous deux membres du groupe vaudois, ils nous ont proposé cette dispute. Maintenant, nous poursuivons avec trois autres membres du groupe vaudois, du groupe de préparation, pour un nouveau type de format qu'on a appelé cartouche ou capsule. On va vous proposer trois courtes interventions, courtes mais vives, d'environ 10-15 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, bah. On ne sait pas. Donc je propose qu'on commence par Patrick Ernst qui nous propose une réflexion sur invention et dissolution de la nation. On poursuivra ensuite avec Christophe Galam. Qui a intitulé son intervention « Nation et Empire » et on terminera par moi-même avec une intervention qui s'intitule « Sport et Nation ». Voilà, Patrick, je te cède tout de suite la parole.
Ben, merci de me donner la parole. Merci aussi à Hugues de m'avoir invité à faire cette présentation sur laquelle j'ai travaillé récemment, en fait. Voilà, donc je l'ai fait un peu parce que c'est vrai, comme l'a dit ce matin Jean-François Bayard, c'est vrai qu'il y a des questions angoissantes qui me travaillent, mais l'écriture, à moi, me permet, d'avoir une compagnie, en fait. Et puis, comme le dit Eri De Luca, pour tenir debout et finalement serrer la main de celui que j'étais aussi plus jeune. Alors, pour moi, ce travail correspond, en fait, à cet engagement de l'intellectuel. Donc, et puis, c'est aussi, ça rejoint un peu aussi ce que dit, on parle d'Eri De Luca, Eri De Luca qui vient aux rencontres internationales de Genève, et Michel Porret, dans Le Ton de ce week-end, dans un entretien, parle d'un humanisme critique. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je ferai cette présentation. Alors de quoi je vais parler? Je vais d'abord parler du rapport de la nation avec le communisme. Puis ensuite, je parlerai du relâchement de l'État, de la nation et de la démocratie. Et puis ensuite, dans un troisième temps, de l'invention de l'imaginaire politique de la nation, imaginaire politique qui va chercher son inspiration dans les rapports de classe et dans la lutte des classes. Et plutôt que de révolution, on va parler de réformisme. Et puis je terminerai sur la dissolution de cet imaginaire politique. Je vais être obligé de lire un peu ce que j'ai fait pour ne pas perdre la substance de ce que j'ai travaillé. Alors, en 1848, lors de la publication du manifeste du Parti communiste et au moment où se construisent et se consolident les nations en Europe, et en particulier la France et la Suisse, comme on l'a vu aussi ce week-end, eh bien Marx et Engels évoquaient l'image d'un spectre, celui du communisme. Force est de constater aujourd'hui que cette prédiction de Marx et Engels doit s'incliner face à la prédiction énoncée par Fukuyama dans La fin de l'histoire et Le dernier homme. Il n'y a plus d'alternative au libéralisme, le communisme est mort. Désormais, le spectre qui nous hante, et comme le laisse entendre aussi un certain discours de supermarché, eh bien c'est le désordre économique. C'est la concurrence entre généralisée, la lutte de tous contre tous, et c'est un désordre économique qui est bien en peine, en réalité, puisqu'il annonce un peu l'apocalypse, eh bien, un désordre économique qui est bien en peine de revêtir la forme d'une force sociale oppositionnelle d'envergure, d'une force oppositionnelle qui serait capable de proposer de véritables voies de rechange sociale et politique, ou ce que Alain Badiou appelle, en fait, une voie disjointe de la structure capitaliste hégémonique. En fait, une force collective qui, à l'échelle du monde, enfin compterait comme une véritable utopie, j'aime pas trop ce mot-là, mais vous allez comprendre pourquoi, dans une situation de dévastation et de pollution planétaire qui exigerait en effet qu'il se produise quelque chose, un bouleversement. Alors, dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le lien entre l'État, la nation, la démocratie se relâche. Non pas parce qu'il y a une anémie de l'État, puisque l'État c'est ce qui reste quand la nation ne veut plus dire grand-chose. Parce que l'État, toute tendance confondue, comme l'écrit aussi Alain Badiou, se fait de plus en plus le relais de la nouvelle séquence mondialisée du capital. Alors, plus qu'une crise improbable de l'État en tant que machine administrative et appareil coercitif, il faudrait plutôt parler d'une crise de l'action politique. La désintégration de l'URSS a entraîné, comme celle de la Yougoslavie, un renforcement de l'État comme option idéologique de remplacement. Les appels de la gauche et des syndicats renforcent en quelque sorte l'interventionnisme de l'État au nom de la responsabilité sociale. Et les demandes adressées à l'État aujourd'hui sont chaque jour plus nombreuses. L'arsenal policier et militaire toujours plus présent, toujours plus imposant. En fait, l'État est toujours plus efficace à s'investir, mais l'État est aussi toujours plus dur vis-à-vis et à l'égard des citoyens. Mais ce faisant, il faut bien l'admettre que l'État est aussi aliène ce qui le constitue, c'est-à-dire la communauté politique. En fait, parler aujourd'hui de crise de l'État-nation, c'est éluder une question essentielle: que reste-t-il de la souveraineté nationale de la nation en tant que lieu de représentation de la structure commune de l'action politique, une action politique non pas synonyme de croissance, une action politique qui agisse en faveur des libertés fondamentales et d'une commune appartenance à la société, autrement dit à la nation, à ce que les Grecs appelaient l'aïdos. Alors, contrairement à l'État présumé efficace aujourd'hui, la souveraineté populaire dans la nation n'a rien à voir avec l'efficacité de l'État, mais justement avec l'invention d'un imaginaire politique. Et je crois que c'est cet imaginaire politique qui est mis à mal aujourd'hui et menace la nation de dissolution. Cependant, contrairement à Alain Badiou, je ne pense pas que notre mal vient de l'échec historique du communisme. Je pense, selon moi, qu'il vient de la perte de cet imaginaire politique qui est propre à la nation. Et bien entendu, la souveraineté à laquelle je pense n'a rien à voir avec les propos de Marine Le Pen. Alors c'est l'invention de cet imaginaire politique qui constitue en fait le centre de gravité de la nation et sa modernité politique. Alors comme l'écrit Ernest Renan, dans Qu'est-ce qu'une nation, il dit: ce n'est pas la terre plus que la race qui fait une nation, mais l'homme. La nation n'a rien d'un archaïsme. Il précise que l'homme est tout dans la formation de cette chose sacrée qu'on appelle un peuple. Autrement dit, ce qui définit la nation pour Ernest Renan, c'est le désir de vivre ensemble. Et moi, je pense que ce désir de vivre ensemble ne peut pas s'assimiler à l'image du compost pour la simple et bonne raison, c'est que le compost, lui, se passe de politique. Il n'a besoin de rien pour être et pour s'enrichir de lui-même. Et donc, le besoin de vivre ensemble ne peut, je pense, trouver un sens que si il est orienté et la politique y joue un rôle. Alors, j'ai bien sûr pas le temps de vous dire tout ce que j'avais à dire, mais dans ce sens, la référence à une même constitution nationale procédera exclusivement de cette intention de vivre ensemble. Alors, comme l'écrit Michel Freytag, dans les formes de la société figure du monde moderne, livre qui va paraître cet automne, décrits qui sont repris et rassemblés dans ce volume, eh bien, il dit: c'est l'émergence d'une activité politique d'institutionnalisation capable d'imposer une certaine uniformité nationale, notamment en prenant pour objet central de ce projet de vivre ensemble la production du système institutionnel. Et c'est ça qui assure en fait l'essor de la nation, c'est-à-dire la prise en main par un peuple de son propre système de reproduction politique. Et c'est cette nouvelle réflexivité sociale sur elle-même, donc ce qui s'appelle une praxis historique, qui mobilise l'invention de la nation et la scelle dans un imaginaire politique qui tendait autant que possible à imposer sur tout le territoire les mêmes lois, les mêmes arrangements institutionnels et administratifs, en prenant en compte ce que Eric Hobsbawm écrit dans « Nation et nationalisme », les opinions de ses sujets et de ses citoyens, parce que son organisation politique leur donnait la parole, généralement par l'intermédiaire de la représentativité politique des partis et des représentants élus. Mais aussi parce que cette institution avait besoin du consentement des citoyens et de leur activité sur le plan pratique, par exemple comme contribuables ou comme conscrits potentiels. Alors la nation, dans ce sens-là, pour moi, est très clairement, devient de fait le lieu de possibilité d'une structuration commune de l'action politique qui fasse sens avec un projet démocratique et qui intègre dans son fondement, ça c'est la modernité de la nation, la conflictualité. Alors, il intègre dans son fondement la conflictualité sociale et tous les antagonismes de classe. C'est la possibilité donc de cette commune action politique de la nation que la nation, en tant que nouvelle entité politique, en fait, inaugure dans la modernité. Là, je suis obligé de sauter aussi. Je n'ai pas le temps de prendre en fait toute l'émergence de la bourgeoisie communale du Moyen-Âge et qui va être un acteur vraiment décisif dans l'invention de la nation. Mais ce que je vais surtout dire, c'est que c'est la classe ouvrière qui va socialiser la conflictualité par une polarisation des antagonismes sociaux autour d'un système institutionnel commun. Et en réalité, c'est le réformisme ouvrier qui va permettre de relancer concrètement l'élargissement de la communauté politique sur le plan national, et c'est dans cela qu'il est possible de dire que la formation de la nation, en fait, va coïncider avec le développement de la lutte politique de classe, proprement dite, puisqu'elle concourt à éradiquer de façon progressive, mais aussi définitive, les possibilités d'alliance stratégique de la classe bourgeoise avec ce qui restait des structures féodales. Alors, au cœur de ces rapports de classe, la formation de la nation s'appuie dans un premier temps sur une opposition radicale entre les classes, entre ce que Marx appelle le capital et le travail, mais dans un deuxième temps, ces rapports de classe s'appuient sur la médiation politique. Et c'est avec la naissance de la médiation politique comme capacité de mobilisation des intérêts de classe que l'opposition radicale entre les classes, au sens économique du terme, dans un premier temps, va se transformer en rapport de classe au sens politique du terme. Donc, à la place d'un développement, d'un développement sauvage du capitalisme, qui prédominait dans tout le XIXe siècle, qui a ravagé en fait toutes les cultures qui ont précédé la constitution de la modernité politique de la nation, eh bien, le système institutionnel devient, et ça c'est important, devient alors l'enjeu permanent des rapports de force. Et la source de la nouvelle dynamique nationale, la possibilité même donc de cette transition permanente vers la paix, vers la possibilité d'une harmonie, vers la possibilité d'une possibilité de vivre ensemble, mais aussi va devenir le lieu de l'émancipation. Alors, réformisme ou plutôt révolution, moi je pense que c'est l'institutionnalisation de cette conflictualité qui va marquer de façon définitive l'unité politique de la nation. Il est bien connu que dans la pratique démocratique d'un partage des pouvoirs entre une gauche et une droite, en fait on se résout plus facilement à la conflictualité quand il existe des moyens légaux de le faire. Alors, comme le souligne Irène Herrmann dans son livre, elle dit « C'est l'inscription de la possibilité de recourir à la voie pétitionnaire comme un droit national dans la Constitution de 1848 qui engage les forces sociales les plus politisées à mieux faire connaître leur opinion en haut lieu. » Puis elle écrit « Sur le plan politique, les pétitionnaires ne s'insurgent pas au nom des valeurs et des institutions passées, mais soulignent avec force les atteintes aux droits nouvellement instaurés. » Là, elle fait référence aux droits sociaux. Elle fait référence aux droits sociaux qui viennent se superposer aux droits fondamentaux, qui sont la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de religion. Eh bien, il y a des droits sociaux qui vont se surajouter, le droit à un travail décent ou digne, le droit à un logement, ou le droit, etc. Donc tous ces droits vont se superposer. Et en fait, comme le souligne Irène Herman, les pétitionnaires démontrent les contradictions subsistant entre les libertés décrétées et celles qui leur sont réellement accordées. Ils se servent donc habilement des arguments démocratiques pour battre leurs adversaires sur leur terrain. Donc, c'est une forme d'équilibre social. Et puis, certains même, elle ajoute, Irène Herman, certains dirigeants du gouvernement de cette époque-là, certains en venaient même à regretter la générosité de cette procédure. Parce qu'il y avait des pétitions, et puis c'était la meilleure manière de faire remonter du bas des choses vers le haut. Alors on voit bien comment le combat politique va se socialiser, va en fait s'intégrer à la vie sociale en permettant justement à tous les acteurs d'y participer. Du même coup, la révolution va perdre sa majuscule, parce que ce n'est pas dans un autre temps ni dans un autre lieu que va se jouer l'histoire. Mais c'est dans la quotidienneté de la vie sociale et dans sa reproduction pratique, c'est dans le procès ininterrompu de cette praxis concrète, démocratique, qu'a lieu la révolution en s'articulant de façon décisive à ce qu'on va appeler le réformisme social. Et un réformisme qui, un réformisme parfois radical, bien sûr, qui va correspondant à des exigences radicales, ou un réformisme plus tranquille, cherchant le compromis entre la conservation des privilèges ou des avantages acquis et leur élargissement aux classes, aux différentes classes, aux rapports de classe. Donc l'existence du conflit n'a plus besoin d'être refoulée dans la différence culturelle, ni besoin d'être réprimée par un rapport d'assujettissement. En fait, il est institutionnalisé. Et donc le citoyen membre du peuple ou de la collectivité, comme le précise Michel Freytag dans Les formes de la société, figure du monde moderne, ce n'est plus le génos grec, ceux qui ont été le même lait et respiré la fumée du même foyer. Ce ne sont pas non plus ceux qui appartiennent aux anciens clans. Ce ne sont plus non plus les chefs de clans formés en une aristocratie, ni non plus ceux qui appartiennent à la haute caste ou à la classe de la monarchie, etc., ou ceux qui fréquentent les mondanités de la grande bourgeoisie parvenue de la belle époque du XIXe siècle. Non, le citoyen, en fait, membre de la collectivité nationale, c'est d'abord ceux qui unissent leurs intérêts, leurs conditions culturelles, leur interdépendance économique, leur cohabitation concrète et leur fréquentation dans un même espace, et surtout en nommant leur commun adversaire, dans la formulation et la réalisation d'un même projet collectif global de société, d'un ordre institutionnel explicite et unifié, et qui en retour se reconnaissent dans une commune soumission à ce même système institutionnel et seulement à lui, et pas à une figure autre ou au prince. Autrement dit, la nation représente en fait l'histoire du rapport de force politique entre paysannerie, noblesse et bourgeoisie, c'est-à-dire un rapport de force entre les classes dominées et l'État capitaliste, mais où ces rapports ont été médiatisés par des institutions qui permettent cette conflictualité. Alors, pour conclure, dans cette dissolution de l'imaginaire politique, alors pour conclure sur l'invention de cet imaginaire politique de la nation, c'est bien sûr dans la projection d'idéaux universalistes, d'abord abstraits d'une certaine manière, liberté, égalité, fraternité, mais aussi progrès, accessibilité du bonheur et surtout justice sociale, que la nation fait sens. C'est en ces idéaux que s'est fixé l'imaginaire politique et qui a irradié toutes les dimensions de la vie sociale, la vie politique, la vie culturelle, la vie littéraire, la vie artistique, la vie juridique, sans oublier la subjectivité de l'individu. Donc l'invention de la nation est une reconstitution de l'unité de la vie pratique, est une reconstitution de l'unité de la société, désormais traversée par un conflit irréductible que cette reconstitution de la société ne peut pas éliminer, mais seulement réguler, par des institutions juridiques et par des institutions politiques qui confèrent justement à cette capacité inédite de régulation une réflexivité de la société sur elle-même. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Eh bien, cette unité conflictuelle de la société, dont le pouvoir et la capacité d'action sur soi, eh bien, subit directement un affaiblissement. Parce qu'elle ne se réclame plus du tout de la même intention civilisatrice du programme idéaliste des Lumières et des valeurs de la modernité. La nation est certes, déjà connue des crises, parmi lesquelles la formation des totalitarismes de la première moitié du XXe siècle a laissé des traces profondes dans l'imaginaire politique de la nation, mais il se peut alors que ces deux formes de totalitarisme éminemment visibles de l'hitlérisme et du stalinisme, et qui font encore largement débat aujourd'hui à propos des dérives de l'État aujourd'hui, eh bien il se peut que ces deux totalitarismes occultent un nouveau totalitarisme, une nouvelle domination sur l'État. Et occultent en définitive une situation assez semblable de domination, où ce qui est en jeu, c'est précisément la perte de cet imaginaire politique et conséquemment la dissolution de la nation. Et puis, pour ça, il y a de nombreux exemples qui l'attestent. Je pense que la réforme de la fiscalité nationale avec la RIE 3 est un déclencheur, peut être un déclencheur, ou les accords TISA, bon, brièvement. Alors, c'est vrai que plus d'une fois dans l'histoire des nations, le capitalisme a eu un impact destructeur sur l'ensemble des références idéales qui ont soutenu et orienté la dynamique démocratique des nations, et notamment sur les sociétés dont la modernité s'est trouvée retardée sur le plan politique et institutionnel, parce que ces sociétés, en fait, confondaient la modernité avec le développement du capitalisme. Ils confondaient la modernité politique de la nation avec le progrès de la nation, lequel a évidemment inauguré une compétition inouïe entre les nations. Donc dans de nombreuses situations nationales, en fait, c'est le développement du capitalisme qui s'est substitué à la réalisation politique et sociale de la nation et qui est venu en quelque sorte ruiner le projet de la nation. Donc entre la modernité précoce de l'Angleterre et la modernisation retardée de l'Allemagne et de l'Italie est venu s'intercaler le modèle français, le modèle de la révolution politique nationale moderne de la France, celui qui a capté et synthétisé en lui toute l'exemplarité de l'invention et de la constitution de la nation comme communauté politique. En fait, la France comme exemple à suivre partout dans le monde. Alors, que nous dit Alain Badiou de la France d'aujourd'hui, autrefois si exemplaire ? Bien, Alain Badiou, il nous dit de la France d'aujourd'hui que la France est devenue un acteur de seconde zone de la structure mondiale et du capital, et qu'elle n'est plus représentable aujourd'hui de façon décente comme le lieu privilégié d'une tradition révolutionnaire, tout simplement parce que la France se trouve à la remorque des firmes et des multinationales. En fait, comme le montre l'exemple de la France, aucune nation n'échappe plus à la mainmise systématique et planétaire du capital. Alors, comme le souligne Eric Hobsbawm dans son livre « Nation et nationalisme » à la fin, dans son chapitre de conclusion, il dit « La nation est visiblement en train de perdre une part importante de ses anciennes fonctions et en particulier celle de constituer une économie nationale. Il faut savoir que l'économie nationale, c'est l'idée d'autosuffisance et d'autarcie dans la satisfaction des besoins et de l'autonomie de la nation, de ce que les Grecs appelaient l'oïkos. Une bonne partie de l'économie nationale de l'après-guerre, je pense, avait le souci quand même, et n'était pas très loin de la notion d'oïkos. Et ça, ça a duré pendant les Trente Glorieuses, c'est-à-dire une économie au service de toute la population pendant cette période. Et c'est après les années 60, on peut prétendre que c'est après les années 70 ou après les années 80, que le rôle de l'économie nationale a été ruiné et remis en question par de grandes transformations et surtout par la présence de ces transnationales et multinationales qui échappent au contrôle des États. Alors je vais conclure, mais Alain Soupiot, dans ses cours du Collège de France, s'inquiète également de la même montée en puissance de ces grandes entreprises transnationales qui occupent dans le monde institutionnel aujourd'hui en train de naître une place qui est comparable à celle des États. Et puis, alors, ce sont ces aspects, à mon avis, qui mettent à mal la nation en tant que communauté politique en vidant l'imaginaire politique de son sens. Et puis c'est en cela que j'en conclue, moi, à la dissolution de la nation. Voilà, je vous remercie.
Alors je vous propose qu'on réserve les questions pour la fin et on va enchaîner tout de suite avec Christophe. La parole est à toi.
Merci. Je vais vous lire le début d'un texte assez long que j'entends consacrer aux biais cognitifs qui rendent très difficile pour ma génération de comprendre et d'adhérer à l'idée de nation. Nous sommes nés internationalistes et je souhaite que, pour les raisons que je vais vous dire, que nous ne mourions pas internationalistes. D'abord parce que l'internationalisme est fini, mais ensuite parce que il y a un très grave déficit affectif à mépriser et à détester ses compatriotes. Je vais vous parler de ça, donc je vais essayer de réintroduire l'affect. Or, comme le dit Cavell, quand un philosophe veut réintroduire l'affect, en général, il parle un peu de sa vie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça s'appelle « La nation et moi » et vous pouvez le lire dans mon blog, j'ai écrit cette première partie, je la continuerai ensuite. La première chose qui est au fond massive devant nous, c'est évidemment l'existence du nationalisme sous la forme du populisme. Et la constante pression électorale qu'impose depuis plus de 20 ans la partie la plus déshéritée de la population sur ces élites détestées, cette véritable cour des miracles politiques a très malheureusement réussi à gagner le cœur et les suffrages de la partie la plus pauvre et la plus précaire de la population. C'est la population la plus pauvre et la plus précaire que la gauche devrait aimer au sens des populistes russes, les narodniki, elle est détestée. Et en fait, quand on se représente aujourd'hui le mauvais pauvre, c'est une affiche que j'ai mise dans mon blog, il est représenté par un obèse en liquette mangeant des pizzas et on peut supposer qu'il passe ses journées de chômeur devant l'ordinateur à déverser des injures ordurières sur les forums. Voilà, ça c'est le mauvais pauvre, le troll, profiteur, assisté, obèse et pas diététique. Mais cette image qui est très intéressante, parce que c'est vraiment l'image que les élites se font du mauvais pauvre, c'est le Thénardier d'aujourd'hui, eh bien, il a voté, ce personnage réprouvé vote, pour des partis qui votent toujours contre ses intérêts, contre les intérêts de leurs électeurs, en petit caniche de la droite économique. De l'activité du parti populiste dans tous les parlements européens sont antisociales. Or, ils sont élus par la partie la plus déshéritée de la population. Et grâce à quelques dérapages racistes plus ou moins contrôlés, ils parviennent à se faire réélire, malgré leur incompétence crasse, leur division, leur malversation. Il y a toujours des problèmes. Dans les sectes, il s'ajoute des problèmes de sexe, mais là, il y a toujours des problèmes d'argent dans les partis populistes. Ils sont délinquants par nature. génétiquement délinquant, comme ils disent. Donc, l'individualisme consumériste a été, en fait, bafoué, comment dire, stigmatisé à travers le mauvais pauvre. Et au fond, ben voilà, on dit, les partis populistes, c'est le fascisme. Retour des années 30. Je regrette que les principaux doctrinaires aient quitté la salle, parce que c'est vraiment leur argument, c'est que c'est le fascisme. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout le fascisme, parce que l'ascétisme des combattants des guerres de matériel et la discipline aveugle des sociétés brutalisées du début du siècle font vraiment défaut aujourd'hui à la base électorale des partis populistes. Donc je propose qu'on réserve cette étiquette d'extrême droite à ceux qui la méritent vraiment, les antisémites, les racialistes, les suprématistes, les survivalistes et bien entendu les islamistes. C'est eux l'extrême droite. C'est absolument pas les partis populistes. Les partis populistes sont devenus autre chose. Un problème social et politique fondamental, et surtout dans la mesure où ils accaparent la notion de nation. Alors maintenant, j'en viens à quelque chose de plus autobiographique. Je vais vous faire un aveu. Quand j'étais petit, je n'aimais pas mon pays. J'aimais l'URSS parce qu'il y avait des grandes forêts et des avions avec des noms bizarres. La Suisse est faite pour les gens qui aiment la nature, le sport, la science, l'argent. Quand on aime la haute culture et la civilisation raffinée, on se sent très seul. On se réfugie dans l'histoire et la philosophie. Mais j'ai tout de suite aimé l'art suisse, même si cette expression peut faire sourire. J'aimais les écrivains suisses, ceux de mon temps et ceux du passé, Rousseau et Constant. Et j'aimais la peinture suisse de toutes les époques. Je connais moins la musique suisse, malheureusement. Et je constate que les artistes qui, comme on dit, étaient restés au pays, comme Ramu, avaient presque tous rempli leurs journaux de plaintes et de doléances envers leurs compatriotes. Ils étaient vraiment ces princes des marges dont a parlé Bertil Galland. Et j'ai été très étonné quand, dans une étude universitaire sur la critique en Suisse romande, j'ai été traité d'identitaire, ce qui, pour l'auteur, était vraiment l'antichambre du fascisme, disons-le, parce que j'avais dit quelquefois « nous » à propos des Suisses romands. J'ai eu tort de dire « nous ». En fait, je m'intéressais qu'aux écrivains. Et je ne créais pas de communauté. L'idée de Bertil Galland, la terre et l'esprit, m'était totalement étrangère. Je ne créais pas de communauté entre l'esprit et la terre. C'était l'esprit, c'était les écrivains suisses et la culture qui s'était manifestée là, que j'avais rencontré tout de suite, très jeune, et qui était pour moi un milieu et puis une culture plus que satisfaisante. Mais c'était tous des marginaux. Ensuite, j'ai fait mon service militaire avec plaisir et même avec honneur, d'abord par intérêt de petit garçon pour le matériel et par curiosité de philosophe qui aime à visiter les cours et les armées. C'est une citation du discours de la méthode. Je me souviens d'une prise de drapeau soigneusement organisée par nos soins sur la place d'armes de Sion, lors de mon dernier cours de répétition. Je me suis demandé s'il me restait du patriotisme, et la réponse a été claire, mon encéphalogramme émotionnel est resté parfaitement plat. Rien, vraiment rien, ne me retenait, ni ne me retient en Suisse. Quand je considère l'histoire en totalité, et que je me demande ce qu'il m'aurait plu d'être dans son vaste cours, il m'a revient à l'esprit la destinée de mon cher Marco Polo, qui peut-être, après tout, n'était qu'un menteur méditerranéen à la Giono. Comme lui, j'aurais voulu traverser des océans et des déserts, habiter un vaste empire et aller gouverner Lhasa ou Jakarta à la demande du grand Khan. Les empires me conviendraient peut-être, en effet, bien mieux que les nations. Leur étendue garantit la diversité des peuples et des coutumes et leur violence limitée garantit au fond la paix générale. La stricte séparation du militaire et du civil permet la pacification des mœurs, l'essor de l'artisanat, de la culture et de la science. Donc au fond, quand je me suis plongé dans la brève histoire des empires que je vous recommande, je n'ai vu que du bien dans les empires. Bon, il y a un niveau d'accession assez élevé, il faut 1 million de kilomètres carrés pour faire un empire, 2 fois la France. Et on compte depuis Sargon Ier, roi d'Akkad, on compte une 60aine d'empires dans l'histoire. Donc il y a quand même des, il y a quand même un certain recrutement, enfin il y a un niveau qui est atteint par un certain nombre d'entités de corps politiques. Et ce qui caractérise ces corps politiques, c'est qu'ils n'ont jamais été effleurés par l'idée de la démocratie et de la solidarité. Ça, alors vraiment jamais. Ce n'est pas leur problème. Je me rappelle la réponse du chef de guerre, du seigneur de la guerre chinois à Yersin, qui avait sauvé le Sichuan de la peste. Et peu après, il y a une très grave famine, et le seigneur de la guerre lui a dit, tu vois, à quoi ça servait de les sauver? Ça, c'est vraiment impérial. À ce moment-là, on voit qu'en fait, il n'y a pas de raison dans un empire de s'occuper de la population. Il n'y a pas de biopolitique. La biopolitique fait vraiment partie du programme national. Et donc, pour ma part, si je fais mon bilan national, mon destin d'intellectuel de gauche m'a fait presque toujours voter contre la majorité de mes compatriotes. Et je n'ai heureusement jamais eu à bénéficier directement de la solidarité sociale. Mon bilan national est donc très pauvre. Et je ne peux que rêver à ce qu'aurait été mon bilan impérial en lisant les Mémoires d'Adrien ou La gloire de l'Empire, puisque d'Ormesson est un très bon auteur, je l'ai découvert en Pléiade, et autres romans au grand souffle. Alors, aujourd'hui, tombe la nouvelle, les Suisses ont rejeté les initiatives AVS Plus à 59%, et Économie Verte à 63%. Ils ont approuvé la loi sur le renseignement à 65%, et là, on voit exactement ce qui se passe. Mon bilan démocratique est encore, mon bilan national est encore plus faible. C'est, je me retrouve en dehors de la nation à chaque votation. La démocratie ne m'inclut pas. J'ai voté exactement le contraire. La démocratie ne m'inclut pas, donc je me sens assez libre vis-à-vis de la démocratie. Je ne suis pas en amour de la démocratie. Mais si vous tenez à la démocratie, alors il faut constater que la nation vote contre vous. Et si la nation sacrifie ses intérêts à ses affects, c'est parce qu'elle ressent bien que les gens qui proposent ces initiatives ne l'aiment pas. Et que la fracture affective, liée à un certain nombre de biais affectifs, entre la gauche et la nation, amène la nation à rejeter toutes les initiatives de gauche. Donc, il n'y a qu'une seule solution, il faut aimer ses compatriotes. C'est dur. Et j'arrive à 61 ans pour cette conclusion. Elle correspond ni à ma vie, ni à mes goûts. Mais si la gauche veut gagner et qu'elle veut réellement obtenir des progrès de la société suisse, il faut qu'elle se décide à se réconcilier avec l'idée de nation et à aimer ses compatriotes.
Voilà, alors je vais changer complètement de sujet. En préambule, je vais dire que je vais être assez bref.
Ce micro, si tu veux.
Non, c'est bien, je crois que c'est bien. Je l'ai eu tout pendant 3 jours, je l'ai adopté. Je vais être assez bref, et puis, pourquoi ? Parce que je souhaite simplement vous faire part de quelque chose qui me fascine, ou qui m'interpelle, qui m'interpelle depuis longtemps. Alors, j'ai intitulé ma petite intervention « Sport et nation ». Il faudrait que j'en donne une petite explication, mais ce qui m'intéresse, c'est la conjonction entre le sport et sa pratique sous la ou les bannières nationales. Alors, je ne parle pas du sport tel qu'on le pratique en loisir ou pour des raisons hygiénistes, mais bien le sport qui se pratique sous les drapeaux. Alors, il y a quelque chose d'assez similaire entre... Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour un citoyen de servir son pays ou en tout cas de le représenter. Il y a en s'engageant militairement. En Suisse, on est obligé de faire l'armée, donc c'est un engagement qui n'est pas volontaire, même si maintenant il y a beaucoup de moyens d'y échapper. Et puis peut-être l'une des autres solutions pour représenter son pays, c'est d'être un sportif. Et puis d'essayer d'être un sportif suffisamment bon pour se faire sélectionner dans une équipe, dans son équipe nationale. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment le caractère international des compétitions sportives. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du sport, ni d'ailleurs un spécialiste de l'histoire de la nation. Beaucoup de choses ont été dites, donc des spécialistes et des gens très savants vous en ont parlé durant tout ce week-end. Au début du XXe siècle, les Jeux Olympiques, enfin, même à la fin du XIXe, je crois que la première compétition olympique a eu lieu, avec l'idéal olympique, hein, qui est la participation, l'amour du sport. Et je crois assez rapidement, les athlètes qui sont sélectionnés par leur fédération nationale et représentent leur pays. Alors, qu'on soit, la spécialité soit, je sais pas, le saut en longueur sans élan, ou le saut en hauteur sans élan, ce qui se pratiquait maintenant on ne le fait qu'avec élan, et qu'on gagnait des compétitions, on remportait des médailles, on les remportait pour son pays. Et c'est toujours le cas maintenant, il y a eu récemment des Jeux Olympiques où il y a un classement qui est fait, un classement des médailles qui est fait par nation. Alors il a été dit, Anne-Marie Thiès l'a dit, évidemment les compétitions sportives ont des enjeux géostratégiques. Il y a certaines nations qui prennent ça très au sérieux et qui essayent d'imposer la délégation la plus performante possible et la plus nombreuse pour remporter un maximum de médailles. On sait qui c'est les États-Unis, c'est les Chinois, c'est les Britanniques, c'est les Français, c'est les Allemands. Ils sont toujours dans le top 10 du nombre de médailles. Mais il y a aussi des grandes nations qui, je le dis avec un peu d'humour, je pense, s'en fichent de ces enjeux géostratégiques. Par exemple, l'Inde, qui a dû, proportionnellement à sa population, gagner extrêmement peu de médailles. Et il y a aussi les grandes compétitions de foot qui sont devenues encore plus importantes en termes d'audience, en termes de moyens qu'elles nécessitent pour être organisées, c'est les compétitions de foot, hein, la FIFA et l'UEFA. Et là, je vais être aussi un tout petit peu autobiographique et puis apporter la question des affects. Quand j'avais 10 ans environ, j'avais envie, et je le disais partout, de devenir professionnel de foot pour jouer dans l'équipe de Suisse. Et puis je faisais du foot et puis mes camarades espagnols se foutaient de moi en disant « Mais l'équipe de Suisse est nulle, il faut que tu fasses autre chose. » C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais enfin, c'est pas parce que l'équipe de foot de Suisse était nulle, c'est parce que j'avais pas le niveau. Et il y a évidemment beaucoup de compétitions qui sont nationales, mais ce qui est vraiment important pour les gens qui font du sport à haut niveau, c'est de briller dans des compétitions internationales. C'est bien d'être champion suisse de foot, mais c'est mieux d'aller à la Champions League et puis d'essayer de remporter quelques matchs. C'est bien d'être champion suisse de tennis, mais c'est beaucoup mieux de gagner les internationaux de France. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Et pour qu'un sportif soit ce qu'il est, c'est-à-dire souvent quelqu'un qui attise les attentes, qui attise l'admiration, il faut gagner des compétitions internationales. Et évidemment, toute une sorte d'industrie s'est mise en place, et cette industrie, je pense, a utilisé les nations comme une sorte de produit. C'est-à-dire que, en mettant en compétition des nations dans des compétitions internationales, on a créé des produits, qui peut être le produit suisse, le produit France, le produit américain, et puis l'idée c'est qu'ils s'affrontent, et puis qu'il y en a un qui sort de vainqueur. Et la question se pose, c'est que tout le monde, beaucoup de gens, mais quand je dis tout le monde, parce que je pense que tout le monde regarde, s'attarde une fois devant un match de foot, et je ne crois pas que c'est uniquement l'apanage des classes populaires. Alors, le sport l'industrie du sport a initié des rites. Hein, le dimanche, il y a le foot, il y a des tournois de manière régulière, que ce soit en foot, en tennis, en rugby. Mais tout le monde regarde le sport, et tout le monde, finalement, s'identifie à l'équipe de la ville dont il est originaire ou de son pays. Et en même temps, les sportifs qui jouent sous la bannière d'un État jouent aussi le jeu, parce qu'ils s'identifient à cet État-là, ou à la nation qu'il représente. Et c'est assez étrange, parce qu'un sportif, c'est quoi ? C'est en général une petite entreprise qui roule pour sa bosse, qui essaye de gagner un maximum de compétitions. C'est un footballeur, par exemple, ça s'achète, ça se vend, il a une cote, il y a un marché, on appelle ça le mercato. Donc, tout le reste de l'année, c'est des gens qui jouent pour des clubs, ils sont plus ou moins bien payés, et il arrive à un moment donné où ils sont d'accord de s'engager pour leur pays, et puis de les représenter, et ça fonctionne. C'est-à-dire que ça fonctionne, c'est-à-dire que les gens, ça crée une sorte d'affect, une sorte d'identification, et les gens les suivent, les gens les aiment, certainement, et les gens s'y passionnent. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'assez, peut-être paradoxal, on pourra en discuter, mais comment est-ce qu'on peut s'identifier à des sportifs pour lesquels on n'a rien en commun, à part peut-être un drapeau et encore et comment est-ce que ce tour de passe-passe fonctionne? Alors évidemment, il y a une question d'affect là, mais est-ce que le sport n'est qu'une question d'affect? Il y a peut-être aussi une question de rationalité. On peut tout à fait apprécier un sportif ou un jeu ou un sport de manière tout à fait rationnelle, parce qu'on le connaît, parce que techniquement on peut apprécier les performances des sportifs. Mais il n'empêche qu'il y a toujours cette question, et je vais terminer là-dessus, qui est pour moi assez fascinante, c'est pourquoi est-ce que je ressens une forme de contrariété quand Roger Federer perd l'US Open l'an passé? Et pourquoi est-ce que je ressens une forme de satisfaction quand cette année, Stan Wawrinka remporte l'US Open contre le même Novak Djokovic? Voilà. Alors, le bal des questions est ouvert. Je vais donner le micro à Camélia.
Merci. J'essaie de pas bafouiller. J'apprécie que ces deux conférences aient lieu à la suite parce que dans la première conférence, parmi toutes les informations, j'ai entendu que malgré tout, un accent mis sur la puissance des multinationales et des grands capitales, comme si, c'est en résonance avec ce qu'on entend de façon assez omniprésente, et comme si cette toute puissante c'était un fait établi, etc. On ne peut avoir l'expertise, mais à partir du moment où on affirme, on parle de ça comme une toute puissance, je veux dire, on peut avoir des craintes de voter à gauche, pas seulement pour des questions de désamour, mais pas en étant habité par certaines craintes. Pour résumer, maintenant...
Excusez-moi, quelle est votre question et pour qui elle s'adresse?
Alors, il y en a deux.
Deux questions.
Excusez-moi.
Peut-être.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en Suisse, on n'arrête pas de parler du franc fort, mais alors il y a des aspects de spéculation, mais mine de rien, une des causes du franc fort, c'est que la Suisse est bénéficiaire du libre-échange. Donc si y a. Un pays où c'est difficile de réagir à ça, c'est en Suisse. Par contre, des pays qui sont constamment au bord de la faillite, je ne dis pas que ça peut pas venir de la Suisse, il y a des retournements rapides qui vont venir, mais je veux dire... Ceux-là, on se dit qu'ils auraient avantage à maintenir des barrières protectionnistes, et il y a des discours qui les en dissuadent. Alors les petits pays ne peuvent peut-être pas se battre la compte, mais je vois quand même maintenant, c'est pas de bon ton d'admirer Donald Trump, je pense que Il y a un autre idéal.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez formuler une question?
Non, mais oui, j'y arrive. Mais c'est quand même frappant que dans le parti de Ronald Reagan, maintenant, on trouve un candidat qui se fait le chantre du protectionnisme. On a. Alors qu'on dit que c'est encore la première puissance du monde, mais qui se trouve dans cet état de déficit dramatique. Donc, je veux dire, l'idée qu'il n'y ait aucune force qui puisse contrer la puissance des multinationales, je me demande s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire, si on ne trouve pas un biais pour la mettre en doute. Et je ne vois pas de quelle façon on pourrait voter pour la gauche, c'est ce que je présente maintenant. Donc, si on n'a pas une vision de ce type, alors je ne fais pas. Je
n'ai pas très bien compris la question, mais bon, puisque vous avez évoqué Ronald Reagan, venons-y. Hein. Parce que je crois que c'est quand même à partir de là que se pose un problème. Moi, quand je parle de l'économie nationale des Trente Glorieuses, je pense qu'il y a un bon compromis entre économie et politique. Puis moi, ce que je constate, c'est que jusque dans les années 80, il y a énormément de mouvements sociaux. Hein, le mouvement hippie aux États-Unis qui a eu une répercussion importante. Mais pas seulement, il y a aussi eu la guerre du Vietnam qui a passablement mobilisé les mouvements sociaux. Il y a aussi après eu des mouvements sociaux contre le nucléaire, enfin contre des choses qui sont aujourd'hui à l'origine d'énormes problèmes. Et ce que je constate aussi, c'est que ces mouvements sociaux ne sont pas nés de rien. Ils sont nés précisément de la possibilité, par les institutions qui ont été mises en place dans le cadre de l'État-nation, rendant obligatoire une instruction publique primaire et secondaire, et puis ensuite supérieure, ces institutions ont permis à une conscience sociale de se forger. Et puis pas de divaguer n'importe comment. Et puis jusque dans les années 80, il y a eu après des réactions prônant la décroissance, etc. Il y a eu un certain nombre de choses qui allaient dans le sens d'une force sociale d'opposition. Eh bien, ce que je constate, c'est qu'à partir de Reagan, et il faut savoir que Reagan, avant de devenir président des États-Unis, il était gouverneur de Californie. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a réprimé tous les mouvements hippies. Et il l'a fait avec une violence terrible. C'est ce qui lui a permis d'accéder à la présidence des États-Unis. Et je pense qu'en faisant ça, il a permis, autorisé, démontré que politiquement, on pouvait déconstruire réellement une force d'opposition. Et puis ensuite, tout le monde a suivi derrière. Donc, c'est là où... Alors, je ne dis pas que... comment faire contre les multinationales? Moi, je n'ai pas de réponse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas... ce que je vois, c'est qu'il est très difficile de trouver une force sociale capable d'aller contre, avec une argumentation qui se construise, avec un mouvement social qui prenne corps. Alors, je veux bien la lutte, les sans-papiers, etc. Oui, mais ça ne va pas... Ça ne nourrit pas cette force d'opposition qui était dans les années 80 très clairement présente. Elle était internationalisée. Et puis elle n'était pas. C'était dans la continuité des mouvements ouvriers, mais il y avait autre chose dans le message. Eh bien, avec la fin de la guerre froide, qu'a fait le libéralisme, le national-libéralisme dont a parlé Bayard, c'est de systématiquement détruire tout ce qui permettait de mettre un frein au libéralisme. Et moi, c'est ce que je constate. Et quand on regarde l'histoire du mouvement nucléaire, c'est en France, typiquement, le pays, etc., on le voit. Mitterrand a intégré la critique nucléaire dans la construction nucléaire de la France. Puis en fait, il a dissous la force oppositionnelle des antinucléaires en France. Aujourd'hui, il y a parfois des mouvements, on appelle ça des performances, je ne sais pas si c'est de l'art ou en matière de mouvement social, mais des fois on croche une banderole sur une centrale et puis on rappelle le danger. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Je ne vois pas de force oppositionnelle qui mettent en avant le danger que constitue le nucléaire français actuellement. Alors est-ce qu'on attend que ça... Pardon ? Alors moi je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a plus de force. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors par rapport aux multinationales, on va dire la même chose. Mais il y avait... Ouais, bon.
Oui, alors il y a quand même une chose hein, que les États peuvent faire, c'est les lois antitrust et il y a des trucs que les... D'ailleurs je rappelle... que contrairement à ce qu'on croit, les États-Unis n'ont toujours pas été réganiens et qu'ils avaient trouvé un ensemble assez impressionnant d'obstacles à justement ce que tu appelles la prolifération de ces formes de déconstruction de la nation. Je ferai remarquer que ça a pris une dizaine d'années et que par deux fois le Congrès a refusé l'instauration, par exemple, de la Banque fédérale américaine. Évidemment, ça s'est perdu et que maintenant tout le monde regarde Goldman Sachs comme si elle avait toujours existé, mais ça, c'est pas le cas. Donc ça, c'est une chose. Je pense que les États, par contre, je suis très surpris de te voir, de te voir décrire ça avec cette vision réformiste, parce que je sais pas, l'État. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment historique, si tu veux, où dans les démocraties représentatives, il y a eu l'irruption populaire des ouvriers. Mais si tu es vraiment marxiste, tu peux pas imaginer un moment que l'État va jouer ta partie. C'est pas possible. Donc c'est de te voir surpris par ce retour en arrière. Je dirais, ça me surprend aussi parce que c'est la nature même de l'État. De prendre position par rapport aux dominants, de les protéger, ça se voit. Alors aujourd'hui, ce qui est nouveau, je pense, alors si je devais moi rajouter quelque chose à ce que tu as dit, c'est la désinhibition avec laquelle tout cela se passe. Mais cela s'est toujours passé. Sauf pendant cette période que tu désignes comme les 30 Glorieuses, qui est désignée comme les 30 Glorieuses, je pense là avec Piketty et d'autres, était une exception à la, parce que tu sortais quand même d'un univers ou d'une guerre qui avait été incroyable. Enfin, bon, je pense que c'est une exception. Je pense donc que quand on prend le modèle de l'État-providence et qu'on se réfère aux Trente Glorieuses, on n'a pas une vision historique juste. On a un effet de parallaxe. Effet de parallaxe que je considère être... même si c'était de la parallaxe, c'est bien de s'en souvenir. Mais tu vois, je veux dire, on ne peut pas se positionner par rapport à ça. Donc ça, c'était ma remarque que je voulais te faire. Et puis, peut-être aussi pour David et le sport, je ne sais pas. Moi, je vais tenter d'être un petit peu comme Christophe. Et je vais dire qu'au fond, quand je regarde les fans catholiques qui regardent Federer gagner, je crois qu'ils ont une vision mystique. Il y a une mystique chez Federer. Federer, c'est pas un sportif normal. Alors, je sais pas comment ça se passe du côté des protestants, parce que je les connais pas. Mais nous, on a un désir peut-être secret de se voir réaliser le miracle. Et Federer, c'est l'ange ou c'est l'archange qui doit venir répéter quelque chose qui est inconcevable. C'est-à-dire de toujours gagner, quoi. Et de gagner avec une grâce que personne n'a.
Oui, alors je vais répondre brièvement. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la figure de Federer auquel on a adossé toute une série de valeurs qui doivent être typiquement suisses. L'élégance, l'excellence, l'humilité. Et puis, c'est peut-être même l'un des rares sportifs auquel on a affublé le qualificatif de génie, même. Federer est génial et je pense qu'effectivement il a ce côté quasiment, pas dire messianique, mais en tout cas angélique, ça c'est sûr. Et il est devenu la meilleure image de marque ou la meilleure carte de visite de la Suisse à l'étranger, notamment en Chine, aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a pas mal de livres qui ont été écrits d'ailleurs sur la... Les philosophes s'intéressent à Federer ou sont intéressés à Federer, et je pense que... Il y a encore des choses à dire, mais je je passe la parole à quelqu'un d'autre dans la salle. Madame, vous aviez une question ?
Oui, en vous entendant, je parlais de Federer et de cette image angélique. Je me disais, c'est marrant parce que la Suisse, c'est un pays religieux. La France, c'est un, moi, je suis française, c'est un pays profondément laïque. Et la figure du sportif, ce que vous avez dit sur le sport et la nation, d'abord, ça illustre parfaitement tout ce qui a été dit ici, c'est-à-dire que la nation, c'est un affect. Hein, et c'est une des manifestations les plus évidentes que la nation est un affect. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez de Federer en termes mystiques, théologiques, hein, alors que je me rappelle très bien quand la France a gagné la Coupe du monde de foot en 98, eh bien, on parlait black, blanc, beurre. Hein, c'est-à-dire que la France, elle se réfère pas à une mystique, mais elle se réfère à la République. Black, blanc, beurre, c'est bleu, blanc, rouge. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça montre que dans le sport, eh bien, au moment par exemple de cette victoire de 98, dans le sport, il y avait résumé absolument tout le rapport du français à la nation. Hein? Le drapeau, la République, le rêve de la nouvelle France du vivre ensemble. Hein? On n'est plus bleu, blanc, rouge, on est toujours bleu, blanc, rouge, mais on est black, blanc, beurre. Et ça, c'est extrêmement... Enfin, je trouve ça très intéressant que ce colloque se termine sur une réflexion sur le sport et la nation, parce que là, on a vraiment l'expression de deux positions fondamentales différentes de la nation, Federer, l'ange, Zidane, Marianne et le bonnet phrygien. Le colérique. Pardon ? Le colérique. Oui, c'est ça, le coq, le oui, coq
ça,
de loi.
Ça, c'était en 2006, tu vois.
Non, mais ça, c'était pas en 98. Hein, en 98, c'était.
C'était un autre monde. Hein.
D'un côté, t'as l'archange et de l'autre côté, t'as Marianne. Hein, et ça, c'est vraiment... C'est sur le plan symbolique, c'est extrêmement intéressant.
Oui, je voulais juste rappeler que, mais avant de passer la parole à madame, on a lu avec Philippe et d'autres un texte qui avait été paru dans le New York Times en 2006, qui a été écrit sur Federer, c'est un New Yorkais, ça s'appelait Roger Federer comme une expérience religieuse. Mais il y a une question de madame juste ici d'abord. Oui. Oui. Mais...
Oui, ok. Ouais, c'était juste pour plutôt ça s'adressait plutôt à Patrick Ernst, mais éventuellement si Christophe Calam ou David André a quelque chose à dire là-dessus. Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, qu'on pourrait évoquer en passant. Bon, il y a un philosophe, je ne sais plus son nom, qui a écrit récemment quelque chose, un essai pour une économie de l'attention, mais Yves Citon, voilà, exactement. Mais le problème qui se pose aujourd'hui au passage en Suisse aussi, c'est la question de la mobilité. La question, et c'est en rapport aussi avec le problème des migrants et du refuge qui se trouve à une centaine de mètres d'ici, au passage, hein, au refuge Mongré, c'est la question, le fait qu'on a d'un côté une population active qui est en fait mobile, qui n'est pas citoyenne, et une population de citoyens qui vote, qui exerce, qui a ce dimanche exercé son droit de vote pour exprimer son opinion, des fois à son... pas forcément à son... Il ne vote pas forcément en faveur de ses propres intérêts, comme Yves-Christophe Calam l'a justement rappelé. Mais il y a une sorte de déconnexion par rapport à la notion de nation qui sous-entend peut-être quand même la notion d'enracinement, de quelque chose d'identification, d'identité. Et le fait qu'on est dans une situation en Suisse, mais ça pourrait être valable pour d'autres pays qui marchent plutôt bien économiquement, où finalement il y a des gens qui ont été manifestés à Berne pour AVS+, mais qui n'avaient pas le droit de vote, de manière assez ironique. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas voter pour ça, mais ils étaient vraiment favorables à AVS+, mais ils n'ont pas pu voter en faveur de cette initiative. Et le problème, cette espèce enfin, qui me semble quand même, ça me semble un problème aussi assez réel par rapport à la notion de mobilité telle qu'elle se pose aujourd'hui en Suisse. Le fait qu'on est dans une sorte de grande ville qui s'appelle la Suisse. On a parlé des villes, du pouvoir des maires au passage avant, et où finalement les personnes sont tout le temps en déplacement, que ce soit par rapport au pays d'où ils viennent en tant qu'expat ou autre, et où il n'y a pas finalement la politique, la conscience politique des personnes n'existe plus. Il y a une conscience au sein d'être employé par une entreprise, mais c'est tout. La conscience d'être un sujet politique, elle existe peut-être chez certaines personnes, mais de manière très limitée, et dans la population active, de toute façon, ils peuvent pas l'exercer dans le pays dans lequel ils habitent, puisqu'ils n'ont pas les droits qui leur permettent de voter pour exprimer leur opinion. Voilà.
En fait, c'était une remarque ou il y avait une question de réagir.
Juste peut-être pour dire que pour moi, la démocratie se réduit pas à mettre un bulletin de vote dans l'urne, et que je regrette, mais c'est vrai, souvent les votations ne rejoignent pas mes intentions. On le voit encore ce week-end. Puis en plus, ne profite pas à la majorité des gens. Et ça, c'est quand même un peu étonnant de toujours le constater. Ce que j'en déduis, moi, c'est que si on réduit la démocratie à ça, à un geste, ça va surtout pas bien fonctionner. Et parce que c'est justement pas ça, la démocratie. Ça passe vraiment par un autre engagement. Et puis probablement, on a tendance un peu à l'oublier. Ça passe par une culture démocratique, une culture de la conflictualité qui, évidemment, aujourd'hui est de plus en plus absente. Et à chaque fois qu'on ose une polémique, on est assez rapidement contrecarré. Et il n'y a qu'à voir l'état dans lequel se trouve la presse aujourd'hui par rapport à cette ouverture sur l'opinion, sur la diversité de l'opinion publique. Après, qu'est-ce que je voulais encore dire d'autre ? Moi, je pense que la démocratie subit quand même, et ce matin, et je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a cette dédifférenciation entre l'espace public et l'espace privé. Moi, je pense que les valeurs de l'espace privé, alors on a parlé, et Bayard a terminé sur l'inquiétude qu'il a par rapport au travail dans l'État aujourd'hui, il y a quand même une invasion systématique et importante et expansive de plus en plus des valeurs privées dans la sphère publique et sur les valeurs collectives, sur le bien commun, etc. Et je dirais que ça va même jusque dans l'opinion, c'est-à-dire qu'il y a une mainmise systématique sur l'opinion publique. Et si on a des résultats comme on les a ce week-end, moi je ne pense pas que ça découle d'un manque d'attention des gens. D'attention, parce que vous avez parlé de ça. Ça découle d'une mauvaise information, plus qu'autre chose. Et les gens votent contre leurs intérêts parce qu'ils sont mal informés. Et puis ce qu'il y a, alors, surtout, je termine là-dessus, pour moi, l'État, la démocratie, et c'est un état de précarité perpétuelle. C'est-à-dire qu'il est guetté par l'oubli. Et c'est l'oubli de ce qui constitue la démocratie, l'État, la nation, qui menace en fait sa propre survie, sa pérennité. Et moi je pense qu'il y a une fragilité de la démocratie qui est extraordinaire, et qu'on n'a pas pris assez conscience que c'est pas juste mettre un bulletin de vote. C'est pas juste dire oui à la plus de croissance. C'est pas juste dire on peut encore trouver de la littérature de qualité. Non, c'est pas juste ça. C'est aussi partager les valeurs et les travailler. Ça participe d'une intériorité, je pense.
Alors c'est à moi. Il y a trois aspects que j'aimerais bien aborder. Le premier, par rapport au sport, pour moi, les matchs de foot montrent parfaitement l'adhésion du coq masculin qui se projette dans l'équipe national qui vit le match comme un combat qu'il faut gagner. Pour moi, les matchs de foot cristallisent le chauvinisme national des gens des spectateurs qui participent. Et, pour moi, il vaut mieux ça que des guerres, en tout cas. Ça, c'est une chose. Maintenant, j'aimerais bien aborder la politique par le petit bout de la lunette. On dit souvent que la famille, c'est la plus petite cellule de la société. Or, on constate aujourd'hui que, en tout cas dans le monde occidental, elle subit un certain délitement. Les gens ne se marient plus. Quand ils se marient, 50% d'entre eux divorcent. Et ce manque d'engagement, il me semble qu'il se reflète aussi dans l'ensemble de la société et peut-être dans l'adhésion politique à l'État et à la vie politique, simplement. Ça, c'est une de mes observations. Et puis l'autre, on n'a jamais parlé des sciences et de la recherche scientifique dans ce colloque. Quelle est la place de la nation dans les recherches scientifiques? Il me semble que ça, c'est une activité qui est en fait supranationale. On voit que la Suisse, en tout cas une certaine partie des Suisses, avait très peur du résultat des votations du 9 février par rapport à nos engagements au bilatéral de la Suisse avec l'Union européenne, et notamment parce que la Suisse aurait perdu des opportunités d'échange avec les autres pays d'Europe dans la recherche. Donc c'est une activité qui est vraiment supranationale, il me semble, et on le voit à l'école polytechnique. On a un énorme pourcentage de chercheurs étrangers et une grande partie des cours se passe en anglais. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. Voilà, merci.
Alors, peut-être on va partager les réponses, moi je vais brièvement...
Moi je partirai sur la science,
là, volontiers. Donc, sur mon thème, et toi Patrick, peut-être ta deuxième question.
Oui.
Oui, alors c'est mieux d'aller au stade, de gueuler et puis de vivre ce qu'on pourrait appeler la catharsis hein, chez les Grecs, de voir son équipe préférée gagner ou perdre, que de se foutre sur la figure, ça c'est vrai. Debarbieu a dit, Bernard Debarbieu a dit ce matin qu'il y avait une forme de nationalisme bénin. Hein, quand il illustrait la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II hein, sur la place Saint-Pierre à Rome, il y avait une photo où on voyait toute une kyriade de drapeaux, et des drapeaux nationaux, expliquant que c'était une façon de se présenter aux autres, en disant « moi je suis un catholique d'Écosse, de Slovénie, du Brésil ». Donc effectivement, le sport peut-être permet une forme de patriotisme ou de nationalisme bénin, encore que je ne suis pas si sûr que ça soit toujours si bénin, j'aurais quand même parfois quelques réserves. Voilà.
La deuxième question.
Sur l'État et la famille, ben, c'est très bien. C'est vrai que la famille vit une période d'étricotage de la famille. Hein. On parle de famille recomposée aujourd'hui. Puis on est vraiment, ben, ça c'est le cœur de la sociologie, de parler de ça. Mais la famille a été soutenue par l'État et je pense que c'est l'État qui a permis à la famille de pouvoir s'émanciper. Et la première chose que je dirais par rapport à ça, c'est que l'État a quand même mis en place un système d'éducation qui a permis de sortir les enfants de la mine pour les amener à égalité sur un même pied. Et que ça, ça a été un soutien, je pense, incontournable de l'État à la famille et aussi à son projet d'épanouissement. Et aussi au projet des parents de porter les enfants en ayant l'assurance qu'il y aurait un avenir pour les enfants. Et puis ça, je pense que ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse attendre de l'école avec la même certitude, avoir les mêmes attentes par rapport à l'école. Et puis que probablement, dans certains cas, effectivement, l'école peut être aussi à la source de cette désunion possible des parents. Donc il n'y a plus... Voilà, encore une fois, ça fait partie d'un tout, mais c'est compliqué, toute cette histoire. Mais je pense que... moi, je ne suis pas pour un dépassement de l'État dans une transcendantalisation du moment de la Révolution. Parce que moi, je pense que l'État, c'est vraiment un moment de vie, de vivre ensemble qui peut être institutionnalisé puis trouver une dynamique qui n'est pas seulement répressive, mais aussi créative. Parce qu'elle est aussi la source de créativité inouïe et qui sont, à mon avis, pas assez mobilisées. Et puis au contraire, donc, je ne suis pas sûr que ça serve l'État et l'école et la famille, etc., que de penser à la possibilité de dépasser. Je pense qu'il faut ressaisir les institutions de l'État en les humanisant plutôt qu'en les instrumentalisant à des fins qui ne sont pas toujours proches de ce qu'on pourrait en attendre d'un point de vue humaniste. Mais je ne vais pas abuser de ma réponse.
Merci. Alors, je vous dis volontiers une ou deux choses pour le lien entre science et État. Nous avons une assurance scientifique en Suisse contre les conneries de la nation. C'est-à-dire que quand la nation nous coupe de l'Europe, la Suisse fait double investissement dans la science. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme on n'était pas dans l'Europe, eh bien, la Suisse faisait pour Erasmus, par exemple, Erasmus in et Erasmus out. C'est la Suisse qui payait dans les deux cas. Donc l'étudiant s'en apercevait pas, mais il coûtait deux fois plus cher à son pays que les autres pays qui ne font que Erasmus out et pas Erasmus in, puisque Erasmus in est à la charge du pays dont provient l'étudiant. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est clair que la Suisse faisait pour faire comme les autres pays européen, on fait deux fois le trajet, c'est comme le chien qui fait deux fois la promenade 100 mètres, ben voilà, la Suisse faisait double investissement dans la mobilité étudiante. Donc avec les bilatérales, on a au fond frappé à la porte d'Erasmus en disant maintenant on est dedans. Alors la réponse a mis 6 mois à venir, mais c'était oui, vous êtes dedans, vous avez 2 mois pour nous fournir des dossiers d'accréditation. Et bien entendu, Erasmus a installé une antenne assez luxueuse à Berne avec beaucoup de monde et des tas de machines pour valider les dossiers des écoles qui souhaitaient entrer dans l'Erasmus. Ces dossiers ont été faits en 2 mois par des équipes hyper concentrées qui se sont arrachées la tête à remplir des questionnaires impossibles. Et le résultat a été, après une année d'attente, qu'un certain nombre d'écoles, dont la HEP Lausanne, ont été validées comme pouvant faire partie de Erasmus normalement européen, hein, et même Erasmus international. Et extra-européen. Et à ce moment-là est venue la votation de novembre, hein, qui a mis bas à tous ces efforts, puisque à ce moment-là, c'est février, excusez-moi, puisque à ce moment-là, eh bien, la réponse de l'Europe a été de fermer immédiatement Erasmus à la Suisse. Donc il y a des locaux à louer, peut-être des ordinateurs aussi à Berne, et puis on pourra refaire, dès que la situation sera revenue, on reviendra à ce même mode bureaucratique de gestion des échanges universitaires, et on devra refaire un dossier d'accréditation, bien entendu, parce que, bien entendu, toutes les validations qui avaient été données sont considérées comme périmées, et ça, c'est la bureaucratie européenne. Bon, je suis fédéraliste par principe, mais le fédéralisme réel, c'est ce qu'il y a de plus mortel au monde. Hein. Pour avoir présidé des sociétés suisses, je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire que le fédéralisme. Mais encore une fois, c'est ma vocation de vizir impérial qui parle, et pas du tout ma vocation démocratique et fédéraliste. Bon, je finis avec ça. Donc j'ai essayé, comme président de la Société suisse de philosophie, de reconstruire la Société suisse comme une société de chercheurs. C'était une société fêtière de sociétés qui parfois ont un dynamisme extraordinaire, comme le groupe Vaudois, qui réunit encore 30 personnes à 5h moins 10, mais d'autres sociétés réunissent à peine un professeur et 3 étudiants pour écouter un doctorant de la ville voisine, et par conséquent sont dans un état d'assistance sous perfusion de la société suisse. Et à un moment donné, l'Académie suisse, qui finance la société suisse, a décidé d'en finir avec ces perfusions et de ne plus payer de subsides aux sociétés. Donc c'était une décision. À partir de là, il me semblait que l'idée d'une société fêtière était caduque et qu'il fallait transformer la société fêtière en une société de chercheurs suisses et qui aurait en fait les moyens de l'Académie suisse pour subventionner et permettre des activités de chercheurs suisses. L'Académie suisse me soutenait complètement dans cette démarche, mais voilà, vive le fédéralisme. Les autres cantons n'ont pas marché et le projet est tombé à l'eau parce qu'au fond, les gens, là, pour la plupart, ne cherchaient pas. Ils allaient aux sociétés de philosophie parce qu'ils avaient l'habitude d'y aller depuis longtemps, puis qu'ils se souvenaient de leur vieux professeur. Enfin, on a connu ça. Quand j'ai repris le groupe Vaudois de philosophie en 2005, je vous rappelle que j'ai trouvé des cartons qu'on envoyait à des gens qui étaient morts depuis 10 ans. Mais qui continue à recevoir les cartons de la société de philosophie. Donc il y avait une sorte de fossilisation des sociétés de philosophie, et cette fossilisation, elle n'est pas dépassable autrement par la refondation d'une société de chercheurs suisses. Et alors là, apparaît ce qui est intéressant, c'est que chercheurs suisses, ça n'intéresse personne. On ne veut pas être un chercheur suisse. Moi, je suis membre de la Société des études kantiennes de langue française. J'y vais tous les 2 ans, je suis content. J'ai été à l'Association des sociétés de philosophie de philosophie de langue française, un remarquable congrès francophone, c'est-à-dire en l'absence de la France. Et puis, la logique, en fait, de ma recherche implique pas que j'ai besoin, comme dans le monde avec les dessins de Plantu, de me planter un drapeau suisse sur le crâne. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, je m'aperçois que la recherche est mondialisée et que la science est apatride. Ben voilà, il faut le constater. Hein, pour l'instant, voilà ce que je peux dire sur la nation et la science.
J'aimerais revenir sur l'intervention de David sur le sport. Et puis, c'est pas très construit ce que je vais dire là, donc j'espère que c'est compréhensible.
T'inquiète pas, ce que j'ai dit n'était pas très construit.
Oui, voilà, non, c'est pour ça que je me permets de continuer. On parle de la nation comme affect, et je réfléchis à notre posture en tant que nous parlons de la nation comme affect et de notre propre capacité à percevoir cet affect. Éventuellement de façon triangulée ou cathartique. Voilà. Et en gros, ça fait de nombreuses années que je me suis promis une fois d'aller faire le 1er août au Grütli. J'ai toujours pas osé le faire parce que je suis pas forcément compatible avec l'idéologie locale au 1er août au Grütli, donc je pense pas que je vais y aller finalement. Enfin, il y a vraiment une recherche pour moi de la question de cet affect national qui reste une énigme malgré les 2 jours et demi de discussion. Et c'est une contribution d'opinion que je donne là. L'expérience qui pour moi se rapproche le plus de l'affect national pur est le sentiment que j'ai éprouvé quand j'ai vu Shaqiri mettre son but en lucarne cet été, qui m'a fasciné. Je me baladais en ville, je ne vais pas la raconter, enfin voilà, tout à coup j'entends tout le monde qui hurle à gauche, à droite, effectivement un grand écran parmi les 800 millions d'écrans qui étaient disposés en ville passe le ralenti du but, et j'ai trouvé ça cool, effectivement. Et je me dis, voilà, ça doit être ça, l'affect national, ça doit être quelque chose comme ça. Et puis effectivement je me retourne, il y a effectivement des Chinois, des Noirs, des Français, peut-être des Allemands, ils avaient tous l'air contents, je me dis, il y a un truc qui se passe ici, ça doit être ça. Mais je me demande si on peut effectivement parler de la nation comme affect quand on le ressaisit de façon réfléchie et intellectualisante. Voilà.
Je suis un peu embarrassé. C'est-à-dire, si j'ai bien compris,
qu'on ne peut plus parler d'affect vis-à-vis de la nation quand on, fait quoi, quand on rationalise notre rapport à la nation, c'est ça? Oui, d'accord. Bon, je ne sais pas si j'aurais tendance à opposer rationalisation ou rationalisme ou ratio, raison à affect. Évidemment, si on regarde les choses de manière rationnelle, pourquoi est-ce qu'effectivement on est content quand Shakiri met cette superbe, je le dis avec emphase, cette superbe retournée qui sort de nulle part pour égaliser contre les Polonais pour finalement perdre, bref. Pourquoi est-ce qu'on est content alors que je pense que celui qui doit être content c'est Shakiri et puis les autres parce qu'il a fait, il a mis un beau but et puis que comme ça il a pu aller en Angleterre jouer plus facilement et puis que ça a peut-être servi sa carrière et puis qu'au final tout ça est assez, il y a une effervescence qui est assez évanescente. Évidemment quand on, enfin, je pense que si on, on rationalise notre rapport au sport et au sport et au sport sous la bannière nationale, les affects s'étiolent assez vite. Ouais. Il n'empêche qu'il y a toujours, je pense, ce fond-là, c'est ce que j'ai dit à la fin, c'est pourquoi est-ce que, même si je peux tout à fait accepter, parce que ça paraît logique sportivement et rationnellement que je sais pas, l'équipe de Suisse perde contre l'Argentine, parce qu'ils sont objectivement moins forts, pourquoi est-ce que ça me contrarie quand même ça, et je pense que même en rationalisant ce fond d'affect, alors peut-être qu'il faut faire une psychanalyse, je ne sais pas, pour s'en débarrasser, mais il reste là.
La psychanalyse, je vous rappelle, elle ne fait pas disparaître les affects, elle fait qu'ils font moins de mal. Mais je considère que, en fait, ce n'est pas contradictoire d'aimer et de connaître. Ce n'est pas contradictoire d'aimer une femme et de la connaître. Je pense que, en fait, on peut sincèrement... lier les deux choses, c'est que l'affect n'est pas inconnaissable, mais c'est d'abord un affect. Et il faut rétablir la priorité, si j'ose dire, ontologique. C'est d'abord un affect, et ensuite on peut commencer à faire l'histoire des nations, comme l'a fait Anne-Marie Thiès, et arriver à une conclusion qui me semble fausse, à savoir que la nation n'est qu'une construction récente, c'est aussi ce que dit Hobsbawm d'ailleurs, mais ça me paraît faux. Je pense qu'au fond, ces gens sont victimes de la tranche d'études qui leur est concédée par l'université, et comme ils ne vont pas voir ailleurs, eh ben, ils ne s'aperçoivent pas que la construction nationale a existé tout le temps, et qu'elle a toujours suivi d'ailleurs la route qui donne, mais que cette construction nationale se fait quand effectivement on construit la nation, parce que la nation se construit, mais après c'est un affect, et on la construit à partir d'une vision mystique ou d'une sorte de chemin de Damas où tout d'un coup on voit un peuple et on en fait une nation. Et c'est un processus, je ne suis pas très documenté sur ce qui s'est passé en 2500 avant Jésus-Christ, au moment où Uruk, Ur, Gudea et Lagash ont secoué le joug des Sargonides, et bien là il s'est passé quelque chose où on manque un peu d'archives en gros, et on sait simplement que cet empire a fini. Et qu'après, bah, toutes les entités qui le composaient ont repris leur indépendance. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces processus par lesquels les empires donnent naissance à des nations, et les nations envahissent les autres nations pour en faire un empire. Et ce processus-là, finalement, c'est un processus dont on peut parler. Il est rationnel, il n'est pas irrationnel. Maintenant, il nous affecte, effectivement, par les passions nationales. Ça, on n'est pas sur le même plan. Donc pour moi, ça ne gêne pas la définition affective de la nation de dire que par ailleurs, on peut aussi l'étudier.
Juste par rapport à la passion, il faut relire les pages que consacre Kant à l'éducation. Parce qu'il dit le but de l'éducation, ce n'est pas d'apprendre aux enfants à lire et écrire dans un premier temps. C'est d'apprendre aux enfants à maîtriser leur passion, mais aussi à adopter une attitude ils apprennent à écouter les autres, c'est-à-dire à vivre ensemble et à socialiser, et puis afin qu'ils ne mettent pas à exécution leur passion à chaque fois qu'ils entrent dans la passion. Donc je pense quand même que c'est intéressant, parce que une société d'affect, je pense que c'est une société des passions, ça peut aussi desservir l'intelligence collective, toutes ces choses-là.
Alors, je propose qu'on prenne une dernière question, et puis comme il est 17h et que 17h c'est la clôture, et puis qu'on est en petit comité, et qu'il y a un bar, on pourra continuer à échanger autour d'un verre ou d'un café. Oui, monsieur.
Il y a aussi Hugues qui veut une question. Encore deux questions.
Alors, deux questions.
Alors, j'aimerais donner un peu d'espoir et d'espérance par rapport à la nation, à la Suisse, au reste du monde. Je suis très impliqué dans l'initiative Monnaie Pleine, qui revient aux 30 années glorieuses, qui est effectivement une exception par rapport à la création monétaire sans intérêt pour des grands programmes nationaux qui aident toute la population. Alors Monnaie Pleine, grâce à l'initiative Monnaie Pleine, je vis personnellement maintenant le fait que des Allemands, des Français, des Italiens viennent habiter en Suisse pour nous aider dans cette initiative fédérale, parce qu'on est un des rares pays du monde qui a la démocratie directe, l'initiative, et ces gens se déplacent, viennent travailler en Suisse, font des sacrifices familiaux pour retrouver ces 30 années glorieuses et favoriser le système de la monnaie pleine. Alors j'ai ici quelques brochures qui vous expliquent, c'est gratuit, je peux le distribuer à ceux qui s'intéressent. Et vraiment, je vous encourage à réfléchir sur cet aspect de relation de la nation. Ça a été abordé dans le cadre de ces trois jours, et de la monnaie. Donc la monnaie, c'est un affect aussi, et on a une chance historique au niveau philosophique. On a besoin de recherche dans ce domaine-là, et il y a un combat naturellement politique. Ça va prendre 2-3 ans de votation, si ce n'est pas plus, parce qu'on ne gagnera peut-être pas la première fois. Mais je vous encourage en tant que philosophe de nous aider, même de participer aux discussions démocratiques qui va y avoir lieu. Le monde entier s'intéresse à l'expérience suisse de monnaie pleine. Donc en gros, c'est de créer la monnaie pour le bien commun, la monnaie étant un bien commun essentiel. Et très peu de monde sait, peut-être même pas 1% de la population sait, que toute la monnaie qui circule est créée pour des banques commerciales privées, pour leurs bonus privés, personnels, égoïstes. La monnaie n'est plus du tout un bien commun social. Et vraiment, il y a une discussion là, philosophique. La monnaie doit redevenir un bien commun. Et je vous encourage à lire la brochure que je vous donne là gratuitement et à participer en tant que philosophe à la campagne des 3 ans qui vont venir. Merci.
Merci beaucoup. Alors, Hugues, je te propose de poser ta question et puis
conclure.
Et de conclure, oui.
En tout cas, ma question, j'aurais eu des questions pour tout le monde, mais juste cette remarque à Patrick. Pour moi, ton exposé, il y a un problème, c'est qu'il y a une idéalisation du passé. C'est-à-dire que ce dont tu ne tiens pas suffisamment compte, c'est que s'il y a ce plan de relance économique qui se lance dans l'après-guerre, c'est vraisemblablement pour effectivement des raisons extrêmement particulières et qui ne peut pas être piloté seulement par des agents privés, donc on confie un rôle très très conséquent aux États, et que ça c'est effectivement une situation qui dure un certain temps, et puis après cette sorte de béquille étatique est considérée comme plus nécessaire, donc on s'en passe, enfin je veux dire au niveau des leaders politiques. Deuxième aspect de l'idéalisation, c'est que il ne faut pas oublier que dans le même temps où on a les 30 glorieuses, donc cette démocratie sociale presque un peu idéale dont tu parles, la Suisse a le secret bancaire, donc elle ne se prive pas de piller le monde entier, enfin les ressources financières du monde entier, pour les mettre dans ses coffres et s'enrichir. Et puis, deuxième chose, elle collabore avec l'Afrique du Sud, un État hautement raciste, fruit de la colonisation hollandaise, racialiste, etc. etc. Que par ailleurs, avant le mouvement des droits civiques, les États-Unis, c'est quand même plus racialiste que ça, on meurt. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, et quelle que soit la justesse, la politique du New Deal lancée par Roosevelt, hein, ce que je veux dire, c'est que ce regard rétrospectif que tu nous offres, pour moi, il est largement idéalisé. Et qu'ici, il faut vraiment s'interroger sur ce qui a vraiment eu lieu, pas ce qu'on aimerait qu'il y ait eu lieu. Moi, je pense que tu fais trop, tu regardes trop, effectivement, c'était mieux avant pour nous, mais à quel prix pour les autres ? Pour les Italiens, hein, les travailleurs saisonniers, je veux dire, on les traitait comme de la merde. Hein, vraiment, c'était le rebut. Je me souviens, il y a eu une votation sur l'abolition du statut saisonnier. Alors, il s'est aboli ensuite tout seul. Mais il y avait quoi ? C'était 82% des Suisses qui avaient voté contre. C'est ça, la démocratie suisse ? idéal, avec le sens du, ouais, le sens du commun, le sens du public. Non, c'est vraiment. Ici, je t'invite vraiment à modérer ton enthousiasme sur cette période du passé. Bon, je n'attends pas de réponse maintenant. Je crois que ce n'est pas la peine. Vous avez compris, on n'est pas d'accord si jamais. Bon, c'est la vie. Par contre, ce que je vais faire, ben, je vais conclure en vous remerciant tous, vraiment chaleureusement, d'avoir eu le courage d'être encore là. Vous êtes incroyables. Bon, en tout cas, dans mes pensées, je vous embrasse tous, je vous prends dans mes bras, je vous cajole et je vous dis toute ma tendresse, mon amitié, mon affection pour votre, pour nous avoir accompagnés tout au long de ces deux jours et demi d'échanges, de discussions, de conférences, de bagarres. Et puis, ben, je vous souhaite un joyeux retour dans vos foyers.
Peut-être encore juste remercier la maison de quartier, encore une fois, pour son accueil.
Oui.
La maison de quartier qui nous accueille, qui a fait à manger, qui a mis à disposition les locaux, qui s'occupait de la technique. Enfin, c'est extrêmement précieux.
Et remercier David, parce qu'il a eu un dévouement absolument hallucinant dans les 15 derniers jours ou 20 derniers jours de la préparation. Remercier Jamil pour les affiches, les programmes, la mise sur le site de l'information. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie de remercier?
Alors, il faut encore,
tout le monde, tous les membres du comité d'organisation.
Pour remercier l'Interface Sciences et Sociétés, l'Académie Suisse des Sciences Humaines qui nous a soutenus, et la librairie Basta.
Et la librairie Basta, voilà.
Mis à disposition des.
Qui est-ce qu'on oublie encore? Philippe Clark, on a oublié de le remercier pour sa grandeur, sa générosité, sa beauté. Non. Gérard Bras, enfin tout le monde, mais je sais pas, j'y arriverai pas, il y a trop de monde. Et puis j'oublie toujours quelqu'un, puis il y a finalement toujours quelqu'un qui est blessé, heurté à la fin, donc ça va pas. Donc j'arrête ma liste, sachez que je vous inclus tous. J'espère que... Ah oui, et puis Camille, Camélia, hein, omniprésente. Bon, voilà.
Et puis on peut boire un verre si...
Voilà, on va boire un verre, le verre de la...
Le verre de l'amitié.
De se quitter, voilà. Merci encore.